الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قد أخبر سبحانه أن هذه الإمامة إنما تنال بالصبر واليقين فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فقيل بالصبر عن الدنيا فقيل بالصبر عن الدنيا وقيل بالصبر على البلاء وقيل بالصبر عن المناهي والصواب أنه بالصبر عن ذلك كله بالصبر على أداء فرائض الله والصبر عن محارمه والصبر على أقداره ابن القيم رحمه الله تعالى après nous avoir cité l'invocation de ceux qui espèrent devenir des imams pour les pieux il nous cite ici que celui qui aspire à cette grande place doit en plus de compter sur Allah et d'invoquer Allah faire les causes pour pouvoir accéder à cette grande place. Il nous dit, Allah nous informe que cet imama, au sens du modèle religieux, est un rang auquel on ne peut accéder que par la patience et la certitude. Donc pour devenir un imam, un guide pour les pieux, il faut absolument se doter de deux qualités. As-sabr, l'endurance, elle y a pris la certitude. Allah nous dit dans le Coran, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, donc selon la traduction, on a fait d'eux des imams, des guides, qui guidaient les gens selon notre ordre lorsqu'ils se sont montrés endurants et avaient la certitude en nos signes, en nos versets. La patience et la foi ferme, la patience, l'endurance ainsi que la certitude sont les causes qui permettent de parvenir au rang d'imam, de modèle religieux. Plusieurs explications furent avancées à ce propos. Certains dirent la patience à l'égard de ce bas monde. D'autres ont dit la patience face aux épreuves, tandis que d'autres soutenaient qu'il s'agit de la patience face aux interdits religieux. Donc il faut absolument avoir ces deux qualités pour devenir un guide religieux, un modèle à suivre pour les gens pieux. La première qualité, as-sabr, l'endurance. Puis, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous a cité l'explication de l'endurance à travers la parole de certains parmi les pieux prédécesseurs. La patience donc à l'égard de ce bas monde, c'est-à-dire ne pas préférer ce bas monde à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui tombe dans la dunya au dépens de l'au-delà et de ce qui lui apportera le bien dans sa religion et son au-delà, ne pourra pas transmettre la vérité ou toute la vérité aux gens car il aura peur pour sa dunya. Donc il va se contenter de dire ce dans quoi il y a l'agrément de la majorité. Et il aura peur de dire la vérité car ainsi on pourrait lui retirer de certains bienfaits mondains. D'autres ont dit la patience face aux épreuves. Donc celui qui n'a pas l'endurance devant les difficultés de ce bas monde ne pourra devenir un imam, car celui qui appelle au bien forcément subira de nombreuses nuisances. Et s'il n'a pas d'endurance, il ne pourra pas patienter dans ce chemin et devenir un imam. Tandis que d'autres soutenaient qu'il s'agit de la patience face aux interdits religieux. L'imam doit être une personne pieuse qui s'éloigne de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit afin que les pieux puissent prendre exemple sur lui. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit l'avis le plus juste est qu'il s'agit de la patience face à tout ce qui a été évoqué ici. Puis il nous donne la définition Amada qui englobe toutes les parties composantes de l'endurance. En nous disant, donc il faut mémoriser cette définition, l'homme doit faire preuve de patience, le mot le plus adéquat est d'endurance. L'homme doit faire preuve d'endurance dans l'accomplissement des obligations religieuses, en s'abstenant de commettre ses interdits et en se résignant lors des épreuves qu'il rencontre. Donc tu dois être endurant dans trois choses. Dans l'obéissance d'Allah. Tu dois être constant dans l'obéissance d'Allah. Deuxièmement, tu dois être endurant devant sa désobéissance. Tu dois combattre tes passions, ton nafs, afin de ne pas tomber dans l'interdit. Et troisièmement, tu dois être endurant lors du décret, lors des épreuves et des difficultés. Celui qui réunit ces trois choses, voici celui qui aura concrétisé l'endurance. Puis, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre l'importance de ces deux qualités en nous disant wa jama'a subhanahu bayna as-sabr wal yaqin idh huma sa'adatu al-'abd wa faqduhu ma yufqiduhu sa'adatu fa inna al-qalba tatruquhu tawariq ash-shahawati al-mukhalifah li amri Allah wa tawariq ash-shubuhati al-mukhalifah li khabari فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع الشهوات بالصبر والشبهات باليقين. C'est une information très importante. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: Allah a cité conjointement la patience et la foi ferme. Donc l'endurance et la certitude. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité à côté de la certitude l'endurance, à côté de l'endurance la certitude. Pourquoi? Quelle est la sagesse de ceux? L'auteur nous dit: vu que ces deux qualités sont le gage du bonheur du serviteur. Donc le bonheur du serviteur ne peut se concrétiser si ce n'est avec ces deux choses-là. La certitude et l'endurance. Pourquoi? L'auteur nous explique. Si elle venait à lui faire défaut, son bonheur se dissiperait. Celui qui n'a pas d'endurance, ni de certitude, ne pourra concrétiser son bonheur. En effet, le cœur de l'homme est en permanent. Donc avant cela, qu'est-ce que le bonheur? As-sa'ada mahi. As-sa'ada mulakhasatuha ou mulakhasuha rahatul qalb. Le bonheur, le résumé du bonheur, c'est quoi? C'est la tranquillité du cœur et l'apaisement de la poitrine. Voici les termes dans lesquels on pourrait résumer as-sa'ad, le bonheur. Rahatul qalb. Wa rahatul qalb bi salamatihi wa salamatihi bi hifdhihi 'an ash-shubuhati wash-shahawat. ولا تدفع الشبهات ولا الشهوات إلا بالصبر واليقين فبالصبر واليقين تحقيق سعادة العبد. Donc l'auteur nous dit: en effet, le cœur de l'homme est en permanent sujet au martelage de ses deux mères passions. Le cœur est sans cesse agressé par les ambiguïtés, problèmes dans la croyance, et les passions. Le fait de vouloir assouvir ses plaisirs, le fait de pencher vers les passions. Donc sans cesse le cœur est agressé par ces deux choses-là. D'un côté, ses pulsions, ce qui le fait pencher vers ses plaisirs, ses pulsions le poussent à désobéir à Allah. Ses pulsions le poussent à désobéir à Allah, à son Seigneur. Et de l'autre, les ambiguïtés, les shubuhat, les confusions, qui l'empêchent de discerner le vrai du faux et le détournent de son bien. Donc pour que le cœur, la personne, goûte au bonheur, il lui faut la sérénité du cœur, la tranquillité du cœur. Ibn al-Qayyim nous dit que le cœur est sans cesse agressé par les ambiguïtés et par les pulsions. Donc il te faut un bouclier, un rempart par lequel tu vas pouvoir te préserver des pulsions et des ambiguïtés pour garder le bonheur, la tranquillité du cœur. Comment est-ce que tu vas faire? Ibn al-Qayyim nous dit ainsi, donc sa patience, donc son endurance lui permettra de refouler ses pulsions et sa certitude ferme lui permettra d'annihiler ses confusions, de faire disparaître ses confusions et de rester sur la certitude. Car pulsions et confusions, donc shahawat et shubuhat, sont à tout point de vue aux antipodes de la religion. Donc, celui qui réunit toutes les passions, ou bien celui qui réunit toutes les ambiguïtés, va annuler sa religion. Va annuler sa religion et donc son bonheur. Nul ne saurait sauver son âme du châtiment divin, si ce n'est en refoulant ses pulsions au moyen de l'endurance et en balayant ses ambiguïtés, ses confusions par la fermeté de la foi. Donc le résumé, c'est que le bonheur se résume dans la sérénité, la tranquillité du cœur. C'est le premier point. Le deuxième point, le cœur est sans cesse agressé par les ambiguïtés et les pulsions. Si la personne se laisse aller dans l'une de ces deux choses-là, elle perdra son bonheur car son cœur ne goûtera plus à la tranquillité. Troisièmement, il nous faut donc un moyen pour préserver ce cœur. Quatrièmement, ce moyen est l'union de l'endurance qui repousse les pulsions et de la certitude qui repousse les ambiguïtés. Ceci a retenu. ولهذا أخبر سبحانه عن حبوط أعمال أهل الشهوات والشبهات فقال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا فهذا الاستمتاع بالخلاق هو استمتاعهم بنصيبهم من الشهوات ثم قال وخذتم كالذي خاضوا وهذا هو الخوض بالباطل في دين الله وهو خوض أهل الشبهات ثم قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فعلق سبحانه حبوط الأعمال والخسران باتباع الشهوات الذي هو استمتاع هو الاستمتاع بالخلاق وباتباع الشبهات الذي هو الخوض بالباطل C'est pourquoi Allah nous informe que les œuvres des adeptes de ces deux mère passion ne valent rien. Donc les ambiguïtés et les pulsions. Ceux qui ont eu ces deux défauts verront leurs actions annulées. Allah nous dit, il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot, donc de ce bas monde, et vous avez joui de votre lot comme ont joui vos précesseurs, de leur lot. La jouissance qui est signifiée ici est celle des plaisirs de ce bas monde, elle correspond aux shahawat, aux pulsions. Ensuite, il dit, et vous avez discuté à tort et à travers au sujet de la religion, comme ceux qui vous ont précédé. Et cette vaine dispute sans science au sujet de la religion d'Allah est celle de ceux qui sont envahis par les ambiguïtés. Donc Allah nous informe dans ce verset que les anciens sont tombés dans ces deux défauts. Le fait de jouir de plaisir dans le haram et de suivre ses pulsions en désobéissant à Allah Azza wa Jalla. Deuxièmement, les ambiguïtés parlées dans la religion d'Allah Azza wa Jal sans science et en contradiction avec ce qui est venu dans les textes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la finalité de ces deux catégories de personnes en disant « Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce monde et dans l'au-delà. Et ceux-là sont les perdants. » Quelle fut leur finalité? Allah Azza wa Jal a annulé leurs actions. Dans ce verset, Allah établit une corrélation, donc un lien, entre deux éléments. Il affirme la nullité des œuvres et la perdition pour les personnes suivantes. Ceux qui se soumettront à leur pulsion, qui correspond aux jouissances illicites de ce bas monde, et ceux qui s'attachent aux ambiguïtés, c'est-à-dire ceux qui se perdent dans de vaines discussions sans science au sujet de la religion. Ce qu'il nous faut retenir ici, c'est que pour devenir un imam, il faut absolument l'endurance et la certitude. Car la personne est sujet aux pulsions et aux ambiguïtés. Pour repousser ces deux choses, il faut la certitude et il faut l'endurance. Sans ça, tu ne pourras jamais avoir la tranquillité du cœur. Puis, on nous met en garde contre le fait d'avoir ces deux défauts. Il y a une femme qui est venue et qui souhaite se convertir. On va s'arrêter un instant afin de l'appeler à ce dans quoi il y aura son bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Inch'Allah. Donc que les sœurs la fassent avancer au premier rang des femmes. Je vais lui expliquer, avant de lui dicter l'attestation de foi, comment est-ce qu'elle va entrer dans l'islam, avec quelle parole et quel est le sens de cette parole. Donc pour entrer dans l'islam, il lui faut savoir qu'elle doit prononcer ce qu'on appelle l'attestation de foi. C'est-à-dire « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah » Je témoigne, j'affirme et je reconnais qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah. Donc elle doit rejeter le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah et affirmer que le seul qui mérite d'être adoré c'est Allah, l'unique. Elle doit également reconnaître le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle doit affirmer, reconnaître que c'est le messager d'Allah, qu'il a été envoyé pour l'ensemble des mondes. Si auparavant elle était chrétienne, elle doit savoir que Jésus, Isa alayhi salam, n'est pas le fils de Dieu, ni le troisième de trois, mais c'est le serviteur et messager d'Allah. Et sa mère est Maryam, une femme pieuse. On ne les adore pas, on les aime, les respecte et les suit, mais nous n'adorons qu'Allah, le Seigneur des mondes. Ceci étant dit, je vais lui dicter Ash-Shahada et elle répétera après moi. Donc elle dit Ash-Shahadu Alla Ilaha Illallah وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله الحمد لله الذي بتتم الصالحات. On félicite notre nouvelle sœur en Allah. Et on demande à Allah de la raffermir sur la religion de vérité, la seule religion qu'il agrée pour ses serviteurs, l'islam, qui est la soumission à Allah d'un culte sincère. Tout comme on demande à Allah Azza wa Jal de la guider et de lui accorder le bien et le bonheur dans ce bas monde et l'au-delà. Aussi, on lui annonce la bonne nouvelle faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que l'islam efface tout ce qui est passé avant. Donc qu'elles se réjouissent de la bonne nouvelle de son prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne dit que la vérité. Donc elles se voient effacer, pardonner tous ses manquements depuis le jour où elle est née jusqu'à la minute. Donc nous la félicitons à nouveau et lui souhaitons la bienvenue dans notre religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit désormais commencer à accomplir la prière et ses sœurs lui apprendront cela. Elle doit également commencer à jeûner. Elle doit également commencer à jeûner. Elle n'aura pas rattrapé les jours passés. وفقنا الله وإياكم. Inch'Allah, les sœurs vont prendre soin d'elle et lui enseigner ce par quoi sa foi se stabilisera et augmentera. Nous revenons à notre cours. Fasl, كما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين فالآية متضمنة لأصلين آخرين. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, nous avons vu dans un verset précédent qu'Allah a corrélé l'accès au rang d'imam de modèle religieux aux qualités d'endurance et de foi ferme. Donc dans le verset qu'on a récité auparavant, on a vu qu'il fallait ces deux conditions pour être un imam, la certitude et l'endurance. Ibn al-Qayyim nous dit, il nous faut aussi deux autres qualités qui sont également citées dans le verset. أحدها الدعوة إلى الله وهداية خلقه الثاني هداية بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله لأنه قال يهدون بأمرنا فهذه أربعة أصول Donc quelles sont les deux qualités en plus citées dans le verset des deux qualités précédentes? La première, inviter les serviteurs d'Allah à la religion d'Allah. Inviter les serviteurs d'Allah à la religion d'Allah. Appeler les gens à entrer dans l'islam, comme vient de le faire notre sœur, Hafidhah Allah. Inviter les gens à la sunna, inviter les gens à la soumission d'Allah, inviter les gens à l'amour d'Allah, à la crainte d'Allah, à l'espoir en Allah. C'est la première qualité qu'on ajoute ici. La deuxième, hidayatum bima amara bih ala lisani rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, guider et inviter les gens à Allah selon ce qu'il nous a enseigné, selon ce qu'il nous a ordonné sur la langue de son message. Donc t'invites les gens à Allah comme Allah l'a ordonné, comme Allah l'a démontré à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc prêcher la religion d'Allah et guider les gens. Le second, les guider selon ce qu'Allah a ordonné par le biais de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas selon des déductions issues de leur raisonnement, de leur opinion, de leurs opinions, de leur propre orientation, de leur convenance ou selon les traditions et coutumes de leurs ancêtres qui ne disposent d'aucune légitimité religieuse. Et ce puisqu'Allah a dit, des dirigeants guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient. Ainsi donc, le verset énonce en totalité quatre principes fondamentaux. Donc quatre caractéristiques qui sont citées dans le verset وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا مَاذَا يُخِنُونَ. Quatre caractéristiques pour celui qui aspire à devenir un imam pour les gens pieux. La première, الدعوة إلى الله, inviter les gens à la religion d'Allah, appeler les gens à Allah. Et ceci est tiré de Yahdoun, il guide. Deuxièmement, bi amrina ad-da'wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. يعني بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العلم. Donc deuxièmement, faire da'wa avec science et comme nous l'a enseigné le prophète صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, لما صبروا الصبر l'endurance. Quatrièmement, اليقين la certitude. La certitude. Celui qui n'a pas de certitude tombera dans les ambiguïtés. Celui qui n'a pas d'endurance tombera dans les passions. Particulièrement à cette époque, les passions nous agressent de toutes parts. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans les demeures, que ce soit au travail, que ce soit dans les études, que ce soit dans les familles, que ce soit en voyage, que ce soit dans le pays, dans la société, et ainsi de suite. Celui qui n'a pas d'endurance, la moindre épreuve le fera tomber dans ses passions et perdre une partie de sa droiture. Alors que celui qui a la certitude dans la promesse d'Allah et l'endurance pourra repousser tout cela. Comme l'a fait Youssouf alayhi salam, lisez sourate Youssouf du début à la fin et vous verrez que la clé de sa réussite après l'aide d'Allah azza wa jal fut l'endurance et la piété. Il a été éprouvé par de nombreuses épreuves, il s'est à chaque fois montré endurant. Tout comme le fut son père Yaqub alayhi salam, il a été éprouvé par la jalousie de ses frères qui l'ont pris, enlevé et jeté dans un puits. Qui peut imaginer cette douleur dans laquelle et cette détresse dans laquelle s'est retrouvé Youssouf alayhi salam? Mais il s'est montré endurant. Puis il a été pris et fait esclave et emmené dans un autre pays, loin de ses parents. Il s'est montré à nouveau endurant. Puis il a été éprouvé par Imratul Aziz, l'épouse du gouverneur qui a tenté de le troubler et de le faire tomber dans la fornication, al-iyadu billah. Et les savants ont cité de nombreuses circonstances aggravantes dans ce qu'a tenté la femme de Al-Aziz, du gouverneur. Youssouf alayhi salam, ou bien la femme de Al-Aziz, était une femme belle. Deuxièmement, elle s'est embellie et s'est préparée pour le tenter, le faire tomber dans la fornication. Troisièmement, c'est une femme de haut rang. Donc elle peut, s'il répond à sa demande, lui donner tout ce qu'il voudra et tous les postes qu'il souhaitera. Quatrièmement, ils étaient seuls. Cinquièmement, elle a fermé les portes. Sixièmement, elle l'a menacé. Elle l'a menacé s'il ne répondait pas à sa demande. Septièmement, Youssouf est jeune. Donc, il a de la force et il a les pulsions qu'ont les jeunes. Neuvièmement, il lui a été accordé la moitié de la beauté. Dixièmement, c'est elle qui demande. Et les savants citent encore d'autres choses. Malgré cela, il a répondu, qala ma'adha Allah. Le refuge, je recherche auprès d'Allah. Yani, je me sauve de cette tentation et je cherche le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Et vous lirez inshallah le passage dans sourate Yusuf. Wa laqad hammat bi wa hamma biha lawla ra'a burhana rabbi. Kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin. Wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min duburin wal faya sayyidaha lada al-bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan aw 'adhabun alim. Qala hiya rawadatni 'an nafsi wa shahida shahidun min ahliha. إلى آخر هذه الآيات المباركة. On vous reviendra la traduction de ces versets dans l'histoire de Youssouf alayhi salam et son épreuve avec la femme de l'Aziz. Puis, il a préféré entrer en prison à ce péché. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. Ô mon Seigneur, d'entrer en prison m'est préférable à ce à quoi elle m'appelle. Subhanallah. Puis, cette fitna ne s'est pas arrêtée à la femme de l'Aziz, mais même les femmes du pays ont entendu parler de Youssouf et ont voulu le voir. Subhanallah. Mais Allah Azza wa Jal l'a préservé. À la fin de l'histoire de Youssouf, Allah Azza wa Jal nous enseigne la clé de la réussite. Lorsque ses frères l'ont retrouvé et lorsqu'il leur a parlé, ils ont su que c'était Youssouf. Et ils ont reconnu qu'Allah Azza wa Jal l'a préféré à eux et l'a élevé. Il leur a cité la cause de la réussite. Innahu man yattaqi wa yasbir. Celui qui craint Allah et se montre endurant. Certes, Allah ne délaisse pas la récompense de ces gens-là, de ceux qui agissent avec excellence. Donc la clé, c'est taqwallah, la crainte d'Allah et l'endurance. Celui qui a ces qualités-là pourra se préserver de toutes les fitanes bi'idhnillah. Pas en comptant sur lui, en comptant sur Allah. En comptant sur Allah, comme Youssouf l'a fait. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Il a dit à Allah, si tu ne me sauves pas, je pencherai vers elle. Youssouf n'a pas compté sur son rang, mais il a compté sur Allah et a abandonné son affaire à Allah et a eu peur d'Allah et s'est sauvé d'Allah vers Allah, s'est montré endurant et puis Allah Azza wa Jalla l'a sauvé de cette épreuve. Donc voici les quatre caractéristiques qu'il nous faut avoir. Prêcher à la religion d'Allah, guider selon ce qu'Allah a ordonné par le biais de son messager, pas avec ce qu'on pense être bon, pas en suivant nos ancêtres, mais avec le Coran et la Sunna, avec le chemin des pieux prédécesseurs. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a développé ces quatre points. فهذه أربعة أصول تضمنت هذه الآية. أحدها الصبر وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية للأقدار أو لأقداره. طيب، وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. Donc le premier point est l'endurance. Puis Ibn al-Qayyim nous donne la meilleure définition de l'endurance qui englobe tout ce qu'il faut. En disant le premier principe, l'endurance, qui consiste à astreindre son âme à ne pas enfreindre les interdits, la contraindre à mettre en pratique les obligations religieuses et lui interdire de s'indigner, de se plaindre des épreuves émanant du décret divin. Donc tu dois être endurant dans trois choses. Premièrement, l'endurance dans la langue arabe, c'est al-habs, c'est l'endurance. C'est l'emprisonnement. Dans la langue arabe, al-sabr, c'est al-habs, c'est l'emprisonnement. Dans l'islam, l'endurance est emprisonner ton état dans trois choses. Premièrement, dans l'obéissance d'Allah. Tu restes constant dans l'obéissance d'Allah. Deuxièmement, devant les interdits. Tu t'interdis de désobéir Allah Azza wa Jalla. Troisièmement, lors des épreuves, tu te montres patient. Tu ne te plains pas à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. الثاني اليقين وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وفي قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسل واليوم الآخر وبالقدر طيب نهاية الحديث وبالقدر خير وشر فهذه الأصول الخمسة ومن لم يؤمن بها فليس بمؤمن واليقين أن يقوم الإيمان بها أي في قلب المؤمن حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر ولهذا قال من قال من السلف اليقين الإيمان كله الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب Le deuxième principe, la foi ferme, la certitude. C'est une croyance ferme, c'est une croyance ferme et sans faille, qui ne souffre d'aucune forme de doute, ni d'hésitation, de soupçon ou de confusion, et qui répond à cinq principes fondamentaux qu'Allah a mentionnés dans ce verset. Puis il a cité quelques versets. Al-yaqin أصله من الاستقرار يقنا الماء في الحوض إذا استقر فكذلك العلم يرسخ في القلب حتى يستقر فالعلم التام الموجب للعمل هذا هو اليقين كما قال العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى donc la certitude c'est la science complète qui dissipe tout doute La certitude, c'est la science complète qui dissipe tout doute et toute ambiguïté, toute confusion du cœur. Et qui répond à cinq principes fondamentaux. La personne doit avoir la certitude dans cinq bases qu'Allah nous a citées dans des versets. Il les a unies dans plusieurs versets et les a citées de manière... il les a cités à part dans différents versets également. Mais il y a trois versets où ils ont été cités, dans lesquels ils ont été réunis. Le premier, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc Allah Azza wa Jalla nous montre que l'iman, c'est le fait d'avoir la foi. Dans ces cinq principes fondamentaux. Dans un second verset, quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messages et au jour dernier, s'égare loin dans les gardes. Le troisième verset, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah. En ses anges, en ses livres, en ses messages, en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messages. La croyance au jour dernier fait partie de la croyance aux livres révélés et aux messages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les cite conjointement dans le hadith rapporté par Omar radiallahu anhu où il dit dans sa définition de la foi elle consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. Apporté par Moussa. Quiconque ne croit pas en l'un de ces cinq piliers n'est par conséquent pas croyant. Celui qui a un doute dans ces piliers ou ne croit pas en ces piliers n'est pas croyant. Donc la personne doit avoir la certitude dans ces cinq principes. Pour le dernier verset cité par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, à la fin il ajoute et dit والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل. La croyance au jour dernier fait partie de la croyance aux livres révélés et aux messagers. En d'autres termes, la foi au jour dernier a été citée dans les livres révélés par Allah. De même que les messagers ont appelé leur peuple à la foi au jour dernier. À la résurrection au jugement et à la finalité, soit au paradis qu'Allah nous accorde cela, soit l'enfer qu'Allah nous en préserve. Ce qui apparaît, c'est qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a ajouté cette parole, car il ne voyait pas que la foi au jour dernier avait été citée dans ce verset. Al-Sheikh Abdul Razak al-Badr hafidahullah ta'ala nous dit: والواقع أن الإيمان باليوم الآخر ذكر في الآية في تتمتها في قول الله سبحانه وتعالى غفرانك ربنا وإليك المصير وإليك المصير. هذا هو الإيمان باليوم الآخر. Al-Sheikh Abdul Razak, Hafidahullah Ta'ala, le savant de Médine, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a probablement cité cette phrase, car il ne voyait pas que la foi au jour dernier a été citée dans ce passage. Mais ce qui apparaît, c'est qu'en réalité, la foi au jour dernier a été citée dans ce passage. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Ghufranaka Rabbana wa ilayka masir. Donc les croyants invoquent Allah en ces termes: pardonne-nous, ô notre Seigneur, c'est vers toi que se fera notre retour. Vers toi que se fera notre retour, ici il s'agit de la foi au jour dernier. Donc il n'y a plus de problème, les cinq bases sont citées également dans ce troisième verset cité par Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc les messagers ont appelé Na'am à cela, comme dans la fin de Surat Az-Zumar. Et ça a été également cité dans les livres. À la fin de Surat Az-Zumar, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَمَاذَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى. Donc dans ce passage du Coran, à la fin de Surat Zumar, ceux qui ont mécru seront avancés en enfer. Et dans ce passage, Allah Azza wa Jal nous dit qu'on leur dira: est-ce que les messagers ne vous sont pas venus pour vous avertir de ce jour-là, dans la rencontre avec Allah? Et ils diront: certes. Donc, on leur a parlé du jour dernier. Na'am. Allah musta'an. Donc, il nous faut avoir la certitude dans ces pilier de la foi. Et le sixième pilier de la foi, c'est l'iman bil qadar. C'est la foi au destin. Et il n'est pas souvent cité avec les cinq autres points, car il entre dans la foi en Allah. Car il entre dans la foi en Allah. Et par moments, il est cité également. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Nous avons créé toute chose à juste mesure. Et aussi dans le hadith de Jibril, il est cité avec les cinq autres bases. L'auteur nous dit ensuite: la foi ferme, qui est un degré de certitude, consiste à accroître sa foi jusqu'à ce qu'elle fasse office de vue pour le cœur, attestant pour lui de tout ce qui se passe, jusqu'à percevoir toute chose avec son cœur, comme on voit le soleil et la lune de ses yeux. Dans ce sens, certains parmi mes plus prédécesseurs disaient: la foi n'est autre que ce degré de certitude. La certitude représente la foi tout entière. La certitude représente la foi tout entière. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: al-thalith hidayatul khalq wa da'watuhum ila Allah wa rasulih. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أسلم لله وعمل بطاعته، وَدَعَ الْخَلْقَ إِلَيْهِ فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. L'auteur nous dit, troisième principe, guider les gens et les appeler à la religion d'Allah. Troisième principe, guider les gens et les appeler à Allah et son message. C'est ça la traduction. Les appeler à Allah et son message. Ay tad'uhum ila tahqiq ash-shahadatayn بإخلاص الدين لله عز وجل وحده لا شريك له وبصدق متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأداء حقوقه تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع واجتناب ما نهى عنه وزجر. Donc tu dois appeler les gens à Allah, c'est-à-dire à adorer Allah d'un culte sincère. Tu dois appeler les gens au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à le suivre, croire en lui, lui obéir et s'éloigner de sa désobéissance, le prendre en exemple. En d'autres termes, tu dois appeler les gens à concrétiser l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas les appeler à ta personne, ni à ton cheikh, ni à ce que tu penses toi, ni à tes ancêtres. Non, tu les appelles à la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous dit, Allah dit, et qui prononce plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait de bonnes œuvres et dit, je suis du nombre de musulmans. C'est-à-dire, il n'y a pas meilleur que lui. Celui qui appelle les gens à la ilaha illallah, au tawhid, à l'islam. Deuxièmement, fait de bonnes œuvres. C'est-à-dire que lui-même met en pratique ce à quoi il appelle. Et troisièmement, dit, je suis du nombre des musulmans. Il prend la science, la met en pratique, puis appelle les gens et invite les gens à cela. Il ne fait pas que parler avec sa langue. Mais avec ses actions, il met en pratique ce à quoi il appelle les gens. Al-Hassan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, a récité ce verset, puis a fait son tafsir en disant cela. Tel est le bien-aimé d'Allah, son allié, qui se soumet à lui, dont l'œuvre lui est obéissance et qui prêche aux gens sa religion. Donc il a récité ces versets en parlant de ceux qui font da'wah et mettent en pratique sa religion. Puis a dit, voici le bien-aimé d'Allah, celui qui fait da'wah avec science sur la sunna et met en pratique ce à quoi il appelle les gens. Voici le bien-aimé d'Allah. Voici le rapproché d'Allah, celui qu'Allah a aimé, préservé. Il s'est soumis à Allah, s'est montré envers lui obéissant, puis, ou bien, et a invité ses serviteurs à faire de même. Ibn al-Qayyim nous dit, ce genre de personne est l'élite des serviteurs d'Allah. Les meilleurs chez les serviteurs d'Allah. Ceux qui obtiendront les plus hauts degrés auprès d'Allah le jour de la résurrection. Subhanallah. Puis il nous dit, وَهُمْ ثَنِيَّةُ اللَّهِ أَيْ مَنِ اِسْتَثْنَ اللَّهِ وَهُمْ ثَنِيَّةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْخَاسِرِينَ قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان وعمل والعمل الصالح وكمل غيره بوصية له بهما ولهذا قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. De telles personnes sont les meilleures du genre humain, ceux qui disposeront des plus hauts degrés, des plus hauts rangs auprès d'Allah le jour de la résurrection. Allah promet la perdition à toute l'humanité, excepté ceux-là. Comme dans Surat al-Asr, Bismillahir Rahmanir Rahim, par le temps. Donc Allah jure par le temps. Allah peut jurer par ce qu'il veut parmi ses créatures, mais le serviteur n'a pas le droit de jurer si ce n'est par Allah. Celui qui jure par un autre qu'Allah aura commis un acte de polythéisme. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Donc Allah nous informe que tous les hommes et tous les djinns courent à leur perte. Puis, il nous cite une exception. Exception faite de ceux qui ont quatre caractéristiques. La première, ceux qui croient. Donc ça, c'est avec la science. Deuxièmement, accomplissent les bonnes œuvres. Troisièmement, s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est la da'wah, elle se conseille mutuellement. Et quatrièmement, s'enjoignent mutuellement l'endurance. S'enjoignent mutuellement l'endurance dans ce qui a été cité. Allah jure que le genre humain, dans son intégralité, est voué à la perdition, à l'exception de celui qui se pare de la foi et œuvre pieusement, puis qui enjoint à son prochain d'en faire de même. Aussi, l'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris, rahimahullah ta'ala, un des quatre grands imams, dit à ce propos, si les gens méditaient suratul Asr, elle leur suffirait. Elle leur suffirait dans quoi? Pour les encourager à ces quatre caractéristiques. Pour qu'ils n'aient plus d'excuses. Non pas que cette sourate serait suffisante et Mada suffirait devant l'intégralité du Coran. Non, on ne peut se passer d'une lettre du Coran. Mais cela serait suffisant pour nous encourager dans ces caractéristiques et pour Iqamatul Hujjah. Or, en réalité, seuls ceux qui prêchent la religion. Une faïda qu'il nous faut retenir. Écoutez cette parole. وَلَا يَكُونُ مِنَ أَتْبَعِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرٍ. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها. فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله. سبحان الله. Donc retenez cela. Or, en réalité, seuls ceux qui prêchent à la religion d'Allah avec clairvoyance font partie de ceux qui se conforment aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne pourras pas faire partie des suiveurs du messager véritablement, sauf si tu fais partie des prédicateurs qui appellent à Allah avec clairvoyance. Celui qui n'appelle pas Allah avec science ne fait pas partie des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réellement. Donc pour faire partie pleinement de ses suiveurs, il faut apprendre la science, la mettre en pratique et appeler Allah Azza wa Jalla et appeler les serviteurs d'Allah à cela. Allah dit, voici ma voix. J'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, exempté soit Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Dans le verset, l'expression « j'appelle les gens à Allah » explique l'expression qui la précède, « voici ma voix ». En d'autres termes, Allah dit « qul hadi sabili ». Il dit au prophète sallam, dit « voici ma voix ». Puis il nous explique sa voix en disant « Ad'u ilallah, j'appelle à Allah. Donc quelle est la voix du prophète sallam? Ad-da'watu ilallah, appeler les gens à Allah. C'est-à-dire que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui de ses adeptes, pourquoi on ne dirait pas celle de ses adeptes? C'est une faute de français ou pas? Apparemment c'est une faute. Si ça n'est pas une faute, vous me ferez la remarque par la suite. Dans le verset, l'expression « j'appelle les gens à la religion d'Allah » explique l'expression qui la précède. « Voici ma voix. » C'est-à-dire que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses adeptes, c'est prêcher la religion d'Allah. Par conséquent, qui ne prêche pas à Allah, l'islam, la religion d'Allah, ne se trouve pas sur son chemin. Ne se trouve pas sur son chemin. وقوله على بصيرة قال ابن الأعرابي Al-Basira, al-Thabatu ala al-Din. Al-Basira, al-Thabatu ala al-Din. Ibn al-Arabi, laysa Ibn al-Arabi al-Zindiq. Ibn al-Arabi, المعرف بأل وأبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي كان نحويا عالما باللغة والشعر. قال الذهبي كان صاحب سنة واتباع. وقيل البصيرة العبرة كما يقال أليس لك في كذا بصيرة أي عبرة. قال الشاعر في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر أي عبر. والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة فإذا تبصر اعتبر فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له. وأصل اللفظ من الظهور والبيان. فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique le sens du mot basira, clairvoyance. À propos de du mot clairvoyance, dont il est question dans le verset, Ibn al-Arabi, rahimahullah, dit qu'il s'agit de la constance en religion, alors que certains affirment qu'elle signifie leçon au sens d'enseignement tiré des événements ou d'exemples à méditer. Le poète dit, nous avons bien dans ces enseignements des basair à tirer, c'est-à-dire des enseignements, des leçons, de l'exemple des générations passées. Mais en réalité, les renseignements tirés des exemples du passé, les enseignements tirés des exemples du passé sont le fruit de la clairvoyance. Donc celui qui a de la clairvoyance, de la science, tirera profit des événements, tirera des leçons des événements passés. Car qui s'efforce d'être clairvoyant sans tirer des enseignements, tandis que celui qui est dépourvu de clairvoyance en est capable, comme s'il était dépourvu de la faculté de voir clairement. Car qui s'efforce d'être clairvoyant sait tirer des enseignements, tandis que celui qui est dépourvu de clairvoyance en est incapable, comme s'il était dépourvu de la faculté de voir clairement. Étymologiquement, donc dans la langue arabe, le mot basira vient de la clarté et de l'évidence. D'où l'on dit que le Coran est basair, des leçons et des évidences, preuve, guide et clarté qui mène à la vérité et conduit au droit chemin. On dit du Coran qu'il est basair, car le Coran nous oriente et nous guide vers ce qui nous est profitable, la connaissance de ce pourquoi nous avons été créés, adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère et comment atteindre ce but. D'autres significations de ce terme viennent corroborer sa portée sémantique. Donc il y a d'autres expressions dans la langue arabe qui appuient ce sens. Le verset indique donc que celui qui ne fait montre de clairvoyance dans son prêche ne s'est pas véritablement conformé aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ceux qui se conformaient ont eux fait preuve de clairvoyance. Et ceux qui se sont conformés ont fait preuve de clairvoyance. On dirait qu'il vous manque un passage. Et c'est la raison pour laquelle il est dit dans le verset « Moi et ceux qui me suivent ». Ceux qui me suivent. Il manque une traduction. Il manque le passage où l'auteur dit, après avoir parlé du Coran, ولهذا يقال للطريقة من الدم التي يستدل بها على الرمية بصيرة. Donc il manque quelque chose après le Le verset indique donc que celui qui ne fait montre de clairvoyance dans son prêche, non. Naam, juste avant ça. Donc juste avant, le verset indique donc que celui qui ne fait montre de clairvoyance dans son prêche, je ne connais pas cette expression, Allah alam, c'est déjà mon manque de science en langue française, ou c'est une erreur, vous me direz, inshallah. C'est une erreur? D'accord, autant pour moi. Donc il vous manque, وَلِهَذَا يُقَالُ لِطَرِيقَةِ مِنَ الدَّمْ أَلَّتُ سَدَلُّ بِهَا عَلَى الرَّمِيَّ بَصِيرًا. Je vais essayer de traduire. C'est pour cela qu'on appelle basira dans la langue arabe la trace de sang émanant de la proie qui a été touchée par le chasseur. C'est pour cela qu'on appelle dans la langue arabe la trace de sang du amada, la trace de sang coulant de la proie touchée par le chasseur qui le mène à retrouver sa proie. Comment est-ce qu'on appelle cela? Basira. Vous voyez, lorsque le chasseur tire sa proie, hein, par moment elle tombe et ne bouge plus, il vient ensuite et trouve sa proie. Par moment elle touche sa proie, puis elle se déplace un peu. Sahih? Même si vous n'êtes pas des chasseurs, vous devez savoir cela. La proie peut se déplacer car elle est blessée, mais encore a la faculté de se déplacer un peu. Le chasseur, lui, va se diriger à quel endroit? L'endroit où il a attiré sa proie. On est d'accord? En venant, il se peut qu'il ne trouve pas sa proie, mais il va trouver quoi? Le sang. Ce sang va le mener à sa proie. Comment est-ce qu'on appelle cette trace de sang et le sang qui va le mener à sa proie? Quand on appelle cela basira. Pourquoi? Car el basira, c'est l'indice qui te mène au but. D'accord? Alhamdulillah, c'est lui qui m'a facilité à vous expliquer cela. فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول وأتباعهم أولو البصائر. L'auteur, après nous avoir dit que celui qui ne fait pas da'wah, celui qui ne prêche pas, ne fait pas partie des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une deuxième grande faïda à retenir, il nous dit ici. Le verset nous indique également que celui qui n'est pas sur une clairvoyance, celui qui n'est pas sur la science, ne fait pas partie des suiveurs du message. Ne fait pas partie des suiveurs du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et que ces suiveurs sont ceux qui ont la clairvoyance. C'est pour cela qu'Allah nous dit, moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent, ceux qui sont sur ses traces, sont sur la clairvoyance. فإن كان المعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني ويكون من من اتبعني معطوفا على الضمير مرفوع في أدعو وحسن العطف لأجل الفصل فهو دليل على أتباع على أن أتباع الرسول على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يدعون إلى الله ورسوله وإن كان معطوفا أي من اتبعني على الضمير المجرور في سبيلي أي هذه سبيلي. Donc l'auteur nous dit, par ailleurs, dans le cadre d'une lecture différente de ce verset, le sens qui s'en dégagerait serait je prêche à la religion, moi et ceux qui me suivent, et que son aspect grammatical serait viable au vu de son contexte. Ce serait une preuve indiquant que ce sont les adeptes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prêche la religion d'Allah et de son prophète. D'autres lectures peuvent permettre de déduire le sens suivant. Voici ma voix, ainsi que la voix de ceux qui me suivent. Cette voix étant celle de la prédication. je reprends. L'auteur dit: wa in kana ma'tufan 'ala ad-damir al-majrur fi sabili ay hadhi sabili wa sabili man ittaba'ani fa kadhalik wa 'ala at-taqdirayn fa sabiluhu wa sabilu atba'ihi ad-da'wah ila Allah. L'auteur rahimahullah ta'ala nous montre qu'à travers ce verset, on comprend que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses suiveurs est d'être sur la science et la clairvoyance. Et on peut lire le verset de deux manières différentes. L'explication en sera soit: moi et mes suiveurs, notre voie, c'est appeler Allah Azza wa Jal avec science. Ou plutôt, le premier sens, j'appelle à Allah moi et mes suiveurs. Donc les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui appellent à Allah azza wa jal et aux messagers. Ils appellent à concrétiser la ilaha illallah, ils appellent à concrétiser Muhammad Rasulullah. Un autre sens, l'explication est: voici ma voix et la voix de ceux qui me suivent. Donc ce qui est cité ici, soit nous indique leurs caractéristiques, soit leur voix empruntée. Dans les deux cas, donc pour traduire la dernière phrase en français, il faudra revenir à quelqu'un de plus compétent. Donc je mets cela entre parenthèses. Puis il nous dit: quoi qu'il en soit, sa voix et la voix de ses suiveurs est le fait d'appeler les gens à Allah. C'est ce qu'on retient. La voix du prophète sallam, c'est d'être sur la science et d'appeler les gens à Allah azza wa jalla avec science. La voix de ses suiveurs, d'être sur la science, d'appeler les gens à Allah azza wa jalla avec science. Puis l'auteur nous dit: al asr rabi' qawluhu yahduna bi amrina wa fi dhalika dalil ala اتباعهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهداية به وحده دون غير من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب بل لا يهدون إلا بأمره خاصة. في لوتر nous dit رحمه الله تعالى le quatrième principe. Le verset signifiant il les dirigeait sur notre ordre indique l'obligation de se conformer à la révélation faite au messager sallallahu alayhi wa sallam comme seul moyen d'orienter et de guider les gens sans ne jamais recourir aux avis des hommes, à leurs opinions, aux diverses obédiences et autres écoles de jurisprudence. Ils ne doivent donc guider autrui que selon l'ordre divin exclusivement. Obédience, je ne sais ce que ça signifie, vous regardez inchallah dans un dictionnaire. Certaines personnes qui écoutent pourraient se dire: son langage est bien développé et il parle d'un langage très soutenu. Non, je ne fais que lire le livre, d'accord, et essayer de le lire correctement. Et qu'Allah Azza wa Jal nous aide dans cela. Le quatrième principe, Yahduna bi Amrina, est tiré de la parole d'Allah, Yahduna bi Amrina. Il guidait selon notre ordre. Dans cela, il y a une preuve dans l'obligation du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qui lui a été révélé dans leur manière de prêcher. Donc ils appellent à Allah comme on l'a vu dans le principe passé, mais pas n'importe comment. Ils appellent à Allah comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils enseignent aux gens et guident les gens que selon les préceptes de l'islam. Et ils ne s'éloignent jamais de ces préceptes pour faire devancer la parole d'un homme ou d'autres avis ou d'autres écoles de pensée. Mais ils se conforment au Coran et à la Sunna exclusivement. et comprennent le tout selon la façon des pieux prédécesseurs qui nous est enseignée par les savants de Ahl Sunnah. إذن هم متبعون لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم داعين إليها بها. أما من دعا إلى الله عز وجل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح. فهدايتهم به بالوحي. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي وقال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئا لن تضلوا بعد إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم nous dit je ne fais que vous avertir avec la révélation. Donc ce verset nous montre que la da'wa doit se faire avec le Coran, avec la sunna. Allah nous dit également, et rappelle par le Coran celui qui craint ma menace. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous ai laissé deux choses. Tant que vous y serez accrochés, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah ainsi que ma tradition, la sunna. Donc, tu appelles à Allah, pour Allah, à la recherche de l'agrément d'Allah, comme nous l'a enseigné le messager d'Allah, selon ce que lui a révélé Allah, à la recherche de l'agrément d'Allah. Puis l'auteur conclut en disant فَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ أَئِمَّةَ الدِّينِ الَّذِينَ يَقْتَدُونَ بِهِمْ هُمُ الَّذِينَ يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء وبالبدع. فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وهم خاصته وأولياؤه ومن عادهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. يشير إلى حديث الوري عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. L'auteur fait le résumé et dit en conclusion, les imams sont ceux que l'on prend pour modèle, ayant réuni les qualités de patience, donc d'endurance, de certitude, de foi ferme, qui prêche l'islam par la sunna, c'est-à-dire avec clairvoyance, avec science, et non pas en usant des opinions des hommes et des hérésies, donc des innovations. Toi, le linguiste, lorsqu'il y a un S et qu'on doit faire la liaison et qu'il y a un H dans le mot suivant, est-ce qu'on fait la liaison en disant des hérésies ou bien des hérésies? J'ai oublié cela. Des hérésies. Barakallahu fik. Ils sont les successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein de sa communauté. Et ils sont ses proches, ses bien-aimés, ses alliés. Quiconque les prend pour ennemis ou les combat se déclare ennemi d'Allah et s'est mis en guerre contre lui. Allahu Akbar. L'auteur dit, en conclusion de ce qui vient d'être cité, les imams de la religion sont ceux, yani les imams de la religion se comprend pour exemple, sont ceux qui ont réuni entre l'endurance, la certitude, le fait d'appeler à Allah en se cramponnant à la sunna et à la révélation, c'est-à-dire avec science, non pas avec les opinions et les innovations. Voici les successeurs du messager dans sa communauté, donc ceux qui sont ces héritiers qui continuent le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wa. Ceux qui propagent sa da'wa. Ce sont ses proches, ses bien-aimés. Et celui qui a de l'inimitié envers eux, ou les combat, Voici celui qui s'est fait l'ennemi d'Allah, à qui Allah a déclaré la guerre. Comme dans le hadith d'Abu Hurayra, le prophète sallam dit, Allah dit, celui qui déclare la guerre, ou bien celui qui a de l'inimitié envers mon bien-aimé, je lui déclare la guerre. Donc celui qui déteste le serviteur d'Allah car il est proche d'Allah, ça l'explication, Allah lui déclare la guerre. Donc les successeurs du prophète sallam, les suiveurs du prophète sallam, les du'ats, les prêcheurs, les savants de l'Ahl Sunnah sont les bien-aimés d'Allah. Celui qui ne les aime pas car ils sont sur ce chemin-là, Allah azza wa jal leur déclare la guerre. Wa inna lillahi wa inna iraji'un. Puis, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala conclut ce chapitre avec la khutbah de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Ça fait 1h15 que nous avons commencé notre cours. On dirait qu'Allah azza wa jal a mis la baraka en ce jour de vendredi. On a pu prendre une grande part. À ma grande surprise, je ne pensais pas qu'on arriverait jusqu'à ce passage du livre. Probablement que vous êtes fatigué. Donc, que voulez-vous faire? Vous voulez qu'on lise la khutbah de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, ou bien on remet cela, incha'Allah ta'ala, à demain, et chacun d'entre nous va à ses occupations, à la lecture du Coran et autres. Vous êtes en forme pour lire? De toute façon, ce n'est pas vous qui lisez. Vous êtes en forme pour écouter, comprendre, noter, ou bien vous êtes en forme pour vous allonger comme ceux qui sont contre le mur? Hein? Pour ceux qui sont réveillés, c'est déjà pas mal. Hein? Vous êtes en forme comme ces frères que je vois devant moi, assis avec leur stylo et leur cahier, comme s'ils n'étaient pas en état de jeûne, comme s'ils étaient en pleine forme, à la recherche des paroles des savants. Que voulez-vous faire, chers frères bien-aimés? Yassine Malatourid. On aurait trop honte de dire on s'arrête là. Hein? Donc je vais prendre cette responsabilité. Hein? On va s'arrêter là, incha'Allah ta'ala, afin de revenir demain en pleine possession de nos facultés pour pour tirer pleinement profit de ces enseignements bénéfiques d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et à travers lesquels nous relate les paroles de nos pieux prédécesseurs. Rahimahumullah. تعالى جميعا إنه أرحم الراحمين ورحم الله عز وجل آباءنا وأمهاتنا. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا وفقنا لطاعتك في هذه العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك شهر رمضان. اللهم أحينا على طاعتك على الإسلام والسنة، وفقنا للاستكثار من الأذكار والطاعات في ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفار. اللهم ارحم أمي يا رب العالمين، واسعدها في قبرها، وارفع درجاتها في الجنة، واحشرنا معها مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم عليك بالظالمين، يا قوي يا عزيز يا متين اللهم عليك بالظالمين الذين ظلموا شعب الفلسطيني اللهم زلزل أقدامهم واخذهم أخذ عزيز مقتدر واجعلهم عبرة لمن اعتبر اللهم يا قوي يا عزيز يا من أذل فرعون وقارون وهامان عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي كل مكان وانصر الضعفاء والمستضعفين واشف مرضانا ومرضاهم مرضى المسلمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, on a avancé. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous aide à tirer profit des enseignements d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui ont été puisés dans le Coran et la Sunna et qu'il mette la bénédiction dans notre temps et fasse de nous des gens bénis. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les derniers jours et les dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, faites des efforts. Une faïda, les pieux prédécesseurs avaient l'habitude, dans les 10 dernières nuits, de se préparer et s'embellir pour adorer Allah Azza wa Jalla la nuit. Certains se lavaient, certains se parfumaient, certains mettaient leurs plus beaux vêtements. Certains compagnons, certains parmi les salafs faisaient cela. Ils s'embellissaient pour les meilleures nuits de l'année, afin de se tenir debout devant Allah Azza wa Jalla, le Seigneur des mondes, en espérant avoir son pardon et sa récompense. Cette nuit est la 21e nuit du mois de Ramadan. Donc ça peut être Laylatul Qadr. Donc faites des efforts et ne relâchez pas vos efforts. Et n'obéissez pas à Shaitan lorsqu'il vous appelle à la fainéantisme et au repos qui n'est en réalité que fatigue. Le repos ne s'obtient qu'avec la fatigue. Al-raha la tudrak bil-raha. C'est une règle chez les salafs. Al-raha la tudrak bil-raha. Le repos ne s'obtient pas avec le repos. Sahih? Le repos ne s'obtient pas avec le repos. Si tu veux un repos éternel, fil jannah. Hein? Fil dunya, tu dors à salat al-fajr ou bien tu es au masjid à salat al-fajr? Tu es au masjid à salat al-fajr ou pas? Si tu veux le repos éternel, est-ce que tu dors à Salat al-Fajr chez toi ou bien est-ce que tu es au masjid à Salat al-Fajr? Tu es au masjid, warki'u ma raki'i. Allah dit dans le Coran, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Priez en groupe. Allah Azza wa Jal t'appelle, t'invite dans sa demeure au masjid. Est-ce que tu vas ne pas répondre à son invitation? Si un roi, fit dunya, t'avait invité à son invitation, t'avait invité chez lui, t'aurais voyagé pour répondre à cette invitation. Sahih al-Allah. Lorsque ta belle famille t'invite, est-ce que tu réponds à leur invitation ou pas? Même si tu n'as pas envie d'y aller, tu y vas. Sahih al-Allah. Parce que tu espères un bien. Fit dunya. Oui ou non? Alors que peut-être tes propres parents t'invitent et tu dis ma'alish. Sahih? Si un roi t'invite, tu vas répondre à son invitation. Là, c'est Malikul Mulouk, le roi des rois, Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, qui t'invite. Un paradis vaste comme les cieux et la terre. Allah yad'u ila dari salam. Dans le Coran, Allah nous dit, il nous invite à la demeure de la paix, c'est le Jannah. Qui va ne pas répondre à cette invitation? Uffil liman lam yastajib lillah. Malheur à celui qui ne répond pas à l'invitation d'Allah Azza wa Jal. Allah, c'est le plus riche, le plus généreux. Que penses-tu trouver lorsque tu vas venir à cette invitation? Si tu vas à l'invitation du roi, à sa table, tu penses trouver quoi? Anwa' al-maladhat. Hein? Les plus bonnes choses. Et peut-être qu'il va te gratifier et te donner de nombreuses choses, de l'argent et des bijoux, ainsi de suite. Allah Azza wa Jal possède tout ce que les rois de Dunya possèdent, et plus encore. Tu vas trouver un paradis vaste comme les cieux et la terre. Tu vas trouver un pardon pour tes péchés. Tu vas trouver un honneur à te tenir debout devant Allah Azza wa Jal. Donc malheur à celui qui a des manquements dans ses obligations, et malheur à celui qui ne répond pas à l'appel d'Allah, malheur à celui qui va perdre son temps dans ces 10 dernières. وفقنا الله وإياكم لما في صلاحنا في الدنيا والآخرة. Faites beaucoup de dua durant ces nuits. Il se peut que votre dua soit en concordance avec un moment où Allah Azza wa Jal accorde ses biens. Imagine, tu fais dua et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal décide de pardonner à tous ceux qui font dua à ce moment-là. Allah Azza wa Jal t'efface tous tes péchés depuis le jour où tu es. Une dua à un moment dans ces 10 dernières. C'est lui qui dort. Billah alaykum. Il a perdu ou il n'a pas perdu? Il a perdu. Wallah, il a perdu. Est-ce que vous avez la certitude d'être vivant à Ramadan prochain? Oui ou non? Non. Il y a un an, j'étais chez moi et ma mère me préparait à manger. Cette année, je l'ai enterrée de mes propres mains. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait rater ce Ramadan? Là, wallah. Est-ce qu'on savait qu'on allait la perdre? Non. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. L'année prochaine, peut-être que c'est toi qu'on va enterrer. Peut-être que je ne serai plus là pour vous parler. Et que vous parlerez de moi. Et vous direz aux gens, tirez profit de ces jours, peut-être que vous ne serez pas là. Comme celui qui était assis sur cette chaise, parlait et il n'est plus là. Ou peut-être que c'est toi, ou peut-être que c'est toi, ou peut-être que c'est toi. Ou peut-être que c'est une sœur qui est derrière. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout âme goûtera à la mort. Kullu shay'in halikun illa wajha. Allah nous dit tout est voué à disparaître, à périr, sauf son visage. Il n'y a qu'Allah qui reste. Donc ces 10 dernières nuits, c'est une occasion, l'occasion de notre vie. Wallahi, celui qui fait des efforts ces 10 dernières nuits, bi'idhnillah, il va trouver cela fil jannah. Bi'idhnillah, il va trouver cette récompense fil jannah et il ne regrettera pas. Il ne regrettera pas. On va s'arrêter là car mon père m'a dit de l'appeler à 20h, donc je dois l'appeler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.